Oui, nous avons peur, c'est vrai que dans 20 ans, on peut faire un peu comme ça. Il fait un peu de certains paradoxes, mais après, en France, quand même, on est en France. Et on est en France avec la guerre, plus de 30 ans, c'est dans les autres pays. Voilà.
Bon, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a encore pour cette vidéo, il y a deux hypothèses à répondre. D'abord, je dirais une réponse d'ordre objectif. On est dans le pays qui a des politiques publiques. Un des pays qui a des politiques publiques est plus favorable à la famille. Et ça, depuis très longtemps, à travers la politique des allocations familiales. Une politique qui remonte à la guerre, mais aussi à travers tout un régime d'accompagnement finalement des familles sur le plan fiscal, concrètement à travers les codes, des crèches, des systèmes de garde, soit le système de garde collectif, soit le système de garde en grande partie défiscalisé, etc. Parce que quand on regarde ce qui se passe par exemple dans des pays comme l'Allemagne, on voit qu'en Allemagne, c'est très difficile pour une femme de pouvoir travailler en ayant des enfants. La société ne l'envisage pas favorablement, et de toute manière, il y a peu de politiques d'accompagnement, c'est un pays qui va en Espagne, c'est vrai chez tous nos voisins. Donc on est quand même dans un pays, on l'oublie parfois, mais en fait, il y a une politique qui fait qu'il est tout à fait possible d'être en esprit d'accompagner quand on a des enfants. Alors je pense que la vie n'est sans doute pas le seul facteur, mais il y a aussi peut-être. Il y a un paradoxe français. Alors, cela dit, on a toujours vu, on n'a jamais vu que d'autres des périodes de grande inquiétude soient des périodes où les gens arrêtent de faire des enfants. Ils n'arrêtent pas de faire des enfants dans les guerres, si ce n'est parce que les hommes ne sont pas vraiment, il n'y a pas eu dans l'histoire, ça n'a pas été montré. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais moi, je pense quand même que ce sont des facteurs liés à notre modèle social qui, pour le coup, là-dessus fonctionne très bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très attention à le conserver. Cela dit, c'est pas non plus des chiffres extraordinaires, hein, disons, autour du renouvellement du seuil, du renouvellement de la population.
D'abord, voilà, puis après, là. Vous avez une là-bas d'abord. Voilà.
Bon, moi, une question que je voulais discuter, c'est de nos peurs, c'est de la déshumanisation. Et je sais que je l'ai dit, j'ai ça comme humanité.
Oui.
Pardon?
Je crois que c'est pas le chiffre.
Oui, c'est pas le La question de l'autre côté, c'est est-ce que vous faites un lien entre cette déshumanisation et la déshumanisation de notre société?
Oui, directement.
Alors, selon lui, je vais faire un développement un peu long, si vous me permettez, mais j'ai une conviction profonde. Alors, j'ai consacré tout un livre à essayer de l'expliquer, donc voilà, il m'a fallu 350 pages, je vais le démontrer, mais j'ai une conviction profonde, c'est qu'il y a un lien entre la crise du christianisme et la crise de notre société, de notre culture, de la culture occidentale, pour le dire très rapidement. J'ai l'impression que nous avons partie liée, nous les chrétiens, avec l'avenir de notre société. Et que d'ailleurs, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis persuadé qu'on ne peut pas regarder l'Église comme si c'était une situation isolée. Et ce qui se passe dans l'Église ne peut se comprendre qu'en rapport avec le reste de la société et de la culture. Et je pense que ceux qui croient qu'il faut résoudre les problèmes de l'Église par l'Église, je dirais, se trompe profondément. L'Église
elle est embarquée dans la crise de la civilisation, elle est embarquée dans cette déshumanisation que vous décrivez. Alors, ça c'est une thèse qui a suscité un certain débat, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a le christianisme d'un côté, il y a la société de l'autre. Or, dans l'histoire du christianisme, ça n'a jamais été comme ça, ça ne s'est jamais passé comme ça. À toutes les époques, le christianisme a été dans un rapport d'inculturation, c'est-à-dire de rentrer dans la culture, ou de déculturation, c'est-à-dire de sortir de la culture, comme il a tendance à faire à l'heure actuelle. Et je pense que le devenir de notre civilisation est lié au devenir du christianisme. Alors, ça mériterait tout un débat, évidemment. Hein. Voilà, donc je crois très profondément que oui, l'Église est experte en humanité. Donc je crois que la phrase de Timothy, je m'en dis la phrase de Costich, parce que quelqu'un le sait plus précisément. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'elle a un monopole de l'humanité. Donc c'est une distinction que je crois qu'il est important de faire. Je pense, je suis profondément convaincu que le christianisme concerne une réponse globale à la crise de notre civilisation, à la crise de notre culture, à la crise de notre société. Il est porteur d'une réponse globale parce que justement, il rapproche des phénomènes qu'on ne nous rapproche jamais. Donc, il montre comment il y a un lien entre la crise de l'économie, la crise de l'écologie, la crise sociétale, la crise du modèle de la famille, la crise de l'éducation, toutes ces crises finalement de son corps, une sorte de grande crise de l'Occident, qui est arrivé à un point où il ne sait plus trop comment filer et pourquoi nous sommes toujours de ce monde. Et là, le christianisme nous semble qu'il apporte une réponse globale, mais ce n'est pas une réponse exclusive. Alors, je vais faire un peu la différence, si vous voulez. Je pense que nous, les chrétiens, porteurs de cette réponse. Mais il est évident que d'autres qui ne sont pas chrétiens sont porteurs, un, d'interrogations similaires aux nôtres, et deuxièmement, d'éléments de réponse. Le cas, puisque nous sommes à la Bourse du Travail, pour reprendre l'exemple du travail du dimanche. Je crois que l'Église est experte en humanité quand elle proteste contre la banalisation par les mesures législatives du travail du dimanche. Et elle dit, elle ne défend pas le droit, syndical, des catholiques de n'avoir rien d'autre à faire que d'aller à la messe, ça ne dit pas ça. Elle défend en quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui est une question qui habite l'humanité depuis que le judaïsme, d'ailleurs, a fait cette révolution, c'est la révolution du Shabbat, c'est-à-dire un jour qui ne sert à rien, un jour qui est inutile, un jour qui est tourné vers Dieu, peut-être, mais qui est d'abord une rupture dans la consommation, c'est une rupture en utilité, en utilitaire, dans tout ce qui est indispensable à nos vies. Ça, c'est une profonde révolution, une révolution anthropologique, qui a été apportée à l'humanité depuis déjà plusieurs millénaires. Et ça n'existe pas nécessairement dans toute culture en tant que telle. Alors, à ce moment-là, l'Église est experte en humanité, elle lutte contre cette déshumanisation en disant attention, on a besoin d'un temps pour soi, pour la famille, pour les amis, un temps qui ne sert à rien, éventuellement un temps pour aller à la messe du dimanche, si possible, mais un temps qui est un temps libre, au sens fort et profond, justement, libre, un temps libre. Eh bien, il est évident que c'est un sujet sur lequel elle a rencontré des militants syndicaux qui tenaient le discours. Je suppose que ici, c'est une sorte de discours de travail, d'ailleurs, des affiches, mais non, on travaille dimanche. Voilà. Il me semble que donc, l'Église apporte cette expertise et qu'elle montre en même temps qu'il ne s'agit pas seulement de préserver les droits acquis, mais de toucher à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'humanité même de l'homme. Et c'est là que je crois que les chrétiens sont porteurs de cette réponse globale, cohérente, mais évidemment, ils ne sont pas les seuls à porter des interrogations, et les autres portent avec eux, Dieu merci, des éléments de réponse. D'ailleurs, cette réponse est apportée, bon, toujours sur l'exemple du travail du dimanche, ce n'est pas une revendication identitaire, ce n'est pas une revendication communautaire, c'est même pas une revendication utilitaire. ce n'est pas du tout pour elle-même que les ministres parlent. Moi, j'ai regardé très attentivement pour qu'on dise oui, si en fait vous nous dites ça, mais c'est pas du tout. Hein. Les élèves veulent que dans la cause du marché, que ça, ils auront la même dimanche. Je n'ai vu dans pratiquement aucune déclaration des élèves, beaucoup sont trop chantants sur cette question, cet argument qui soit mis dans les, en évidence. Et je pense que non seulement il n'était pas mis en évidence, mais je pense que ce n'était pas en réalité de la préoccupation. Donc, l'exemple qui me vient ici, parce que nous sommes dans un lieu qui est un lieu lié au syndicalisme, c'est un exemple que l'on pourrait retrouver dans beaucoup de situations humaines. Je pense que. Moi, je regrette d'ailleurs que souvent les chrétiens soient. Ils ne sont pas les seuls, mais je regrette que les chrétiens soient disqualifiés quand ils prennent la parole sur les questions d'humanité. On veut systématiquement les suspecter de poursuivre un agenda communautaire, communautariste, alors qu'en fait, ils se placent au service de l'humanité. Je pense que le débat sur la bioéthique, par exemple, est extrêmement important. Je trouve qu'il y a un effort de formation, de réflexion, d'intelligence de ces questions de la bioéthique dans le milieu catholique, qui est sans aucune commune mesure avec l'effort qui a été consenti dans le reste de la société, mais là aussi, heureusement, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui recherchent autre chose et qui réfléchissent autrement et qui disent attention, la recherche en embryon, ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure solution, on peut peut-être aussi faire autrement. Qui disent l'euthanasie, ce n'est pas forcément le progrès que l'on veut nous présenter, attention, il y a peut-être une autre façon de voir les choses, etc. Donc, moi, je vois que sur pratiquement tous ces sujets, qui sont des sujets difficiles, il y a toujours des chrétiens, et heureusement, il n'y a pas que les chrétiens. Voilà. Mais par contre, j'ai aussi une conviction, c'est que je crois qu'à ce moment-là, il est important aujourd'hui que les chrétiens disent qu'ils le sont dans cette situation-là, ils disent en quoi ils croient et pourquoi ils pensent les choses. C'est toujours l'histoire de mon cousin, de Patrick, qui m'a convaincu qu'on a besoin des chrétiens qui ne se cachent pas pour dire ce qu'ils pensent, et pour moi, du coup, à ce moment-là, qui ajoute que ce qu'ils pensent n'est pas pour eux, mais pour le reste de la société. Moi, je pense que le christianisme est porteur, j'ai appelé ça dans mon livre les valeurs faibles. On est habitué à un christianisme donc de puissance, de domination, qui peut prendre la culture, et donc du coup on a tendance à disqualifier la parole chrétienne. Le christianisme, dans cette question de la déshumanisation, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des notions qui sont là encore des notions non détenteurs, donc il n'est pas le détenteur exclusif, elles ne lui appartiennent pas. Ces notions, c'est quoi? C'est la gratuité, c'est la fragilité. Ce sont des mots, c'est ça qu'on appelle les valeurs faibles. Ce sont des mots qui sont des anti-valeurs au sens de la bourse des valeurs, mais qui sont finalement des valeurs au service de toute l'humanité. Moi je suis intéressé à ça et j'essaie d'en dresser un peu l'inventaire dans mon livre. Encore une fois, la gratuité, c'est une notion qui n'est pas propre au christianisme, je trouve. Je vous disais que la chasteté, je parle de tout un peu de différents, la gratuité, la chasteté, la fragilité, le don, etc. J'ai vécu donc au Japon, comme je vous disais, le bouddhisme est porteur de valeurs de compassion, de fraternité, qui sont aussi des valeurs qui sont portées par le christianisme. Simplement, je pense que le christianisme a une vision globale et que le christianisme apporte une réponse qui est celle de l'espérance. C'est ça qui est, je crois, ce qui manque tellement à notre société, vous êtes capable, dans une situation de crise, de porter un regard qui soit un regard d'espérance, en disant que finalement, la crise n'est pas la fin du tout. Après la mort, il y a la résurrection. Cette vision de l'espérance, je crois que c'est ça qui est apporté en plus, je dirais, par les chrétiens, c'est quand même plus, c'est pas vraiment un supplément d'âme. Bernanos disait que le plus grand péché, c'est le péché contre l'espérance. Donc c'est un péché des chrétiens aussi d'abord, un péché contre l'espérance. Voilà. Donc je crois que les chrétiens sont vraiment porteurs de ça. Ils ne doivent pas l'être seuls, ils ne doivent pas l'être pour eux-mêmes. Ça ne doit pas leur donner un sentiment de supériorité. Loin s'en faut, on n'a pas de raison d'avoir un sentiment de supériorité. Mais moi qui suis là ce soir aussi, parce que je pense qu'il y a une réponse à cette crise globale de notre civilisation, que oui, il y a une réponse, et que cette réponse, elle est portée par, par le christianisme. Parce que moi, je ne peux pas répondre trop par nous, par moi.
Je voulais rappeler que vous venez de dire que c'est plutôt juste une observation. Bon, les Français, les Occidentaux, on a appris à l'époque de l'enfance que finalement les plus optimistes de la Terre, c'était les Italiens. Et peut-être aussi d'autres Africains. Alors, on n'en parle pas seulement que des facilités
Et c'est extrêmement, ce que vous dites, c'est extrêmement troublant, parce que mais je pense que le dynamisme, c'est quelque chose que l'espérance. Et quand vous parlez du Vietnam, bon, au Vietnam, il y a un tiers de la population qui n'a pas connu la guerre du Vietnam, qui est née après la guerre du Vietnam. Donc c'est énorme. Il y a une jeunesse bouillonnante dans cette société vietnamienne. C'est quelque chose dont on se rend compte hein, quand on débarque dans ce pays. J'ajouterai une petite remarque d'ailleurs, je ne sais pas si il y a un lien entre les deux, après avoir dit que c'est vrai que ce sont des sociétés qui sont des sociétés qui ne sont pas fondées sur le christianisme. Je peux vous dire qu'une des expériences les plus émouvantes de ma vie, c'est de me retrouver à la messe à la cathédrale de Hanoï et de voir une cathédrale pleine avec des gens dehors. Vous ne pouvez pas rentrer dans la cathédrale pour un jour de semaine, un soir de semaine avec énormément de jeunes. Moi, je crois qu'il y a des sociétés qui sont dans une vitalité, pas seulement économique, contrairement à ce qu'on croit, mais aussi dans une interrogation. Et d'ailleurs, on a tendance à dire que ces sociétés sont gagnées uniquement par le coût de l'argent, par la marchandisation, etc. C'est assez largement vrai. Mais on voit aussi, dans ces cultures-là, par exemple en Chine, même si ça reste encore très minoritaire, les jeunes qui se posent des questions du sens de leur vie professionnelle, est-ce que c'est juste rentrer dans le dans cette production d'argent ou de la polarité, ou est-ce que c'est trouver quelque chose qui est un peu plus nourrissant. Donc ça existe aussi dans cette société. Voilà.
Nous allons parler de crise de la civilisation, de notre civilisation. Est-ce qu'un dépassement de cette crise ne peut être pas une espèce de schizophrénie, puisque nous pensons bien l'importance des droits de l'homme, nous avons même mis sur pied une déclaration universelle, et en réalité, nos véritables valeurs, ce sont les valeurs de ma civilisation et les valeurs de l'argent. Il y a une connexion entre notre système capitaliste au sens large et puis les valeurs que nous référons qui sont quand même ici les chrétiens. Par ailleurs, nous vivons aussi si la crise ne vient pas du fait que nous avons mis des pièces à élaborer une certaine conception du progrès. Et nous nous rendons compte que finalement ce progrès nous-mêmes ne s'en venait pas. Il s'agit donc de reprendre complètement une autre façon de vivre, une autre façon de concevoir ce que doit être le développement. Voilà, en nous promettant un petit point de vent entre les valeurs que nous observons et ce qu'on peut. Une question, voilà.
C'est pas une question, c'est une conviction et je la partage. Je la partage du même professeur, oui, tout à fait, pour suivre mon livre. C'est d'abord la question de la crise du progrès. Et je crois que vous touchez un point qui est absolument fondamental et que peut-être d'ailleurs on a retrouvé de faire dans quelques-unes des questions que j'ai soulevées. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant plusieurs siècles sur une religion de substitution, en fait, qui était la religion du progrès, qui se substituait à la religion chrétienne, qui passait de l'espérance à l'espoir.
Et donc on nous a d'abord, on a d'abord pensé que ce progrès, c'était le progrès de la raison, mais la raison c'est aussi la raison maintenant empêcher les grands totalitarismes du 20e siècle, qui sont des totalitarismes au nom d'une conception folle, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire une conception athée, qui est devenue folle. Tout ça, ça a entraîné, je crois, un certain doute sur les capacités de la raison. Aujourd'hui, je crois que c'est une question importante, je m'en souviendrai sans doute un petit peu plus long, mais deuxième réponse aussi, on va parler de la question du progrès, c'est le progrès scientifique. Et donc, on a pensé que le progrès scientifique allait résoudre la question profonde du bonheur, c'est-à-dire apporter non seulement la connaissance, on dirait, à travers la connaissance de Dieu, qui comment nous en livre le monde, une réponse, même au sens de l'existence, aujourd'hui on voit bien que ce n'est plus le cas, et c'est vrai qu'on dit que le progrès scientifique, c'est aussi, avec la dimension technique dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi la technique, et la technique, c'est aussi la bombe atomique, et la bombe atomique, c'est aussi Hiroshima. De la même manière, quand on parle aujourd'hui, et ça c'est pas tellement dans le cas d'une fois l'histoire, quand on parle, quand on voit le débat sur l'OGM, on voit qu'il y a des doutes aujourd'hui sur la capacité, c'est un débat, hein, c'est un sujet de débat, mais en tout cas, on constate qu'il n'y a pas d'unanimité sur la capacité du progrès technique à nous apporter une solution réellement satisfaisante et que ce que permet la technique à travers la manipulation génétique n'est pas nécessairement ce qui est bon pour l'homme. Pour rajouter les nanotechnologies, on se rend compte qu'à travers ce que nous consommons, nous sommes en train d'avaler des produits alimentaires, des produits alimentaires, parce que les nanotechnologies, ce n'est pas tellement c'est pas seulement des objets qui sont à l'extérieur de notre corps, c'est aussi des produits qui arrivent dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire et dans l'alimentation industrielle que nous consommons tout le temps, pardon, dans le sel, par le produit de consommation courante. On se rend compte que ce progrès formidable ne peut pas évidemment sans nous poser des questions. Donc il y a une crise de la notion de progrès. Je crois que c'est là que justement on a besoin de reposer la question d'un nouveau saut. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Un nouveau saut de l'espoir vers l'espérance. Cette crise de la notion de progrès ne doit pas non plus se traduire par un discours, je dirais, réactionnaire ou avec une espèce de mythologie d'un passé trivialisé. C'est pas ça, en fait, c'est compliqué d'ailleurs. C'est-à-dire d'arriver à quelque chose qui soit de nouveau raisonné, raisonnable, et dans lequel l'homme continue à avoir le dernier mot. Donc ça c'est le deuxième point que vous avez souligné. Le premier, je crois que c'est un reproche qui nous fait beaucoup à l'échelle de la planète. On vous dit au fond, les valeurs universelles auxquelles vous croyez, vous avez été les premiers et vous êtes toujours les premiers à les bafouer. On ne peut pas dire que ce soit faux. On ne peut pas dire que ce soit faux. En même temps, moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'au point où on va parfois, on est dans une civilisation qui est arrivée à se détester elle-même. D'ailleurs, on dit, là, nous avons fait les droits de l'homme, etc. Mais oui, mais là, nous avons fait la colonisation, etc. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Mais on est quand même la seule civilisation à être arrivée à ce point d'autocritique qu'on en est venu à se détester nous-mêmes. Et bon, donc à la fois j'ai envie de vous rejoindre en vous disant oui c'est vrai, nous avons inventé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une déclaration qui véhicule d'ailleurs des valeurs qui sont des valeurs profondément chrétiennes, ça va empêcher l'Église de la combattre, mais bref, nous avons inventé cette Déclaration universelle des droits de l'homme, nous l'avons défendue, nous avons fait l'instrument de notre rayonnement à l'échelle de la planète, en réalité, notre comportement n'est pas tout à fait. Je crois que c'est vrai, mais ça n'empêche pas, là, moi je suis toujours un petit peu prudent, ça n'empêche pas de se dire, nous pouvons quand même être fiers d'avoir inventé ça. C'est quand même une magnifique, pour le coup, c'est un véritable progrès dans l'histoire de l'humanité d'avoir été capable de conceptualiser les droits de l'homme. Après, les droits de l'homme, les droits de l'homme, l'universalité des droits de l'homme, c'est surtout ça d'ailleurs, la mention, c'est l'idée qu'il y a quelque chose d'universel. Ça reste une utopie, ça reste un objectif, ça reste une vision qu'on pourra avoir,
Et n'allons pas, si vous voulez, de mon point de vue, jusqu'à dire, mais nous sommes reliés en les bafouant. Oui, c'est vrai que nous avons aussi porté ça en humanité, et je pense que nous pouvons encore porter ça à l'échelle de l'humanité en disant qu'il y a des universaux communs, le droit de l'homme, c'est quelque chose d'universel, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est très contesté aujourd'hui à l'échelle internationale.
Je renvoie aussi d'autres schizophrénies entre la réalité plus individuelle et collective. Actuellement, je ressens qu'on est inquiet sur les dépendances théo. C'est la dépendance individuelle des systèmes du financier en étant un peu plus à chaque fois dans tous les domaines. Y compris à ça, vous êtes dépendant de grands magasins, de ceci, de dépendance de réduit à grande échelle. Or, dans votre réponse, je retiens un petit peu que vous êtes habitué à un budget, mais qui ne comprend pas du tout au collectif.
Et je reçois votre critique, et je l'accepte, parce que je crois que vous avez en partie raison, parce que il y a un effet, alors peut-être que il me semble qu'on est en train, enfin, je vais répondre assez prudemment quand même. Je vois bien ce que vous voulez dire et j'accepte la critique, et je pense qu'il y a aussi un effet de sevrage, on est en train de sevrer d'idéologie collective qui est aussi montrée dans le mythe, et notre époque. C'est plutôt une époque d'un retour à une démarche spirituelle d'ordre peut-être davantage personnel d'abord. C'est-à-dire qu'au fond, on est passé d'une époque où on voulait changer la vie à une époque où on voulait d'abord peut-être changer sa vie. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, c'est mon deuxième point, je pense qu'une fois qu'on a reconnu ça, parce que toutes les époques ont leur caractéristique, sans doute aujourd'hui on peut davantage changer sa propre transformation. Sa propre vie, que va dire la transformation de la vie en général. Donc, c'est une caractéristique de l'époque. Moi, je m'inscris peut-être même inconsciemment là-dedans. En même temps, il y a deux façons de vouloir changer sa vie. Il y a justement la façon dite hédoniste, et il y a une autre façon, qui est pour le coup celle à laquelle je crois, c'est de dire mais c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Alors, vous, ce qui veut dire que si j'essaie de changer ma vie, ce n'est pas pour moi, mais c'est aussi pour le monde. Est-ce que vous écrivez du supermarché? Ben, c'est tout à fait emblématique. C'est-à-dire, c'est comme consommateur d'abord que je peux, par exemple, un nouveau mode, en étant membre d'une AMAP, et donc en essayant donc, de consommer en rapport direct avec un agriculteur, disons, de me couper de ces rapports de marchandisation et d'exploitation qui sont liés à ce circuit économique, c'est peut-être déjà ce que commencer à agir. Et c'est là que ça commence, en refusant à titre personnel que mes enfants portent des t-shirts avec des marques, etc., donc soit des véhicules de cette société publicitaire, je pense que j'ai une action qui est une action qui, en réalité, n'est pas une action pour moi, c'est une action pour le reste de la société. Donc, si vous voulez, j'accepte votre critique parce que je la crois, voilà, je pense qu'elle est juste. Ça peut être la tendance de l'époque, et je peux être dans cette tendance de l'époque, et en même temps, ne le rejetez pas dans l'absolu, parce que finalement, c'est peut-être par là aujourd'hui qu'on recommence d'une manière un peu réflexive à une certaine forme de résistance. Voilà. C'est une résistance d'abord individuelle. Cela dit, moi j'observe que quand je regarde, par exemple, je regarde l'électeur de la vie en général, je suis souvent très 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 frappé de voir qu'ils sont dans beaucoup d'engagements collectifs à travers, je prends l'exemple du CCFD ou du Secours catholique. Si c'est pas de l'engagement collectif, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, le rôle du Secours catholique avec, je crois, 60 000 bénévoles, je vous cite le chiffre de mémoire, je peux me tromper, mais je crois que c'est 60 000 bénévoles, qu'est-ce que c'est si ce n'est du collectif? Et je crois qu'on va voir peut-être davantage aujourd'hui a tendance à mettre l'accent sur la transformation, personnelle, c'est possible, mais je crois que c'est pas contradictoire, que ça finalement.
Oui, on arrive. Il y a un point commun dans ces grandes peurs que Jean de Limoux évoque dans ce livre, c'est qu'il y a une dimension millénariste. Et on a le sentiment d'être à la fin, de quelque chose à la fin d'un monde. Et les époques millénaristes provoquent toutes sortes de charlatanisme d'ailleurs. On voit des gens qui viennent prêcher la fin du monde, donc en tirer le plus grand profit, voire tirer ça du côté de toutes sortes d'hérésies. Moi je pense qu'il y a un côté qui est un peu comme ça dans cette époque, quand même, sans vouloir se méfier des comparaisons, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a le sentiment d'être au bout de quelque chose, et ce qui fait qu'on est en train de se parler, c'est qu'on est dans ce brouillard, c'est-à-dire que je pense qu'on cherche tous, individuellement ou collectivement, on cherche tous à sortir de ce brouillard dans lequel on est. Parfois on voit bien qu'on est en train de passer d'un monde à un autre et on n'a pas complètement les éléments pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté du brouillard. Donc ça, c'est une caractéristique de ces grandes époques dont celles que vous évoquez, qui sont les peurs de l'ennui, enfin les peurs millénaristes, et l'idée qu'on est à la fin d'un cycle ou à la fin d'un monde. C'est-à-dire, les formes chrétiens pensaient bien qu'on était à la fin des temps, et donc ça leur a donné peut-être une sorte de lucidité au contraire. Dans cet aveuglement qui est de dire qu'on est à la fin des temps, il y a une lucidité extraordinaire sur les choses les plus importantes, finalement, de la vie et de l'histoire. Et ça serait bien qu'on pouvait avoir la même. Donc, s'il doit y avoir encore une comparaison, ça serait plutôt, moi, j'ai tendance à penser qu'on est revenu en réalité au point d'origine du christianisme, et à travers la condition chrétienne d'aujourd'hui dans notre société.
Justement, je voudrais juste savoir, avec le fait d'entretenir la peur, c'est pas une façon de garder le contrôle de notre population.
La réponse est évidemment oui. Mais il y a une chose entre l'entretenir et la reconnaître. C'est ça la différence. Le populisme entretient la peur, éventuellement de manière fantasmatique, peur de menaces qui n'existent pas. Quand on vous explique que quand l'action d'un gouvernement en vient à désigner des coupables, ça s'appelle entretenir la peur. Mais entretenir la peur et reconnaître la peur, c'est pas la même chose. Alors, moi, je crois qu'il faut quand même, moi, je trouve qu'on doit prendre en compte, on doit écouter les peurs de notre époque, on ne doit pas se contenter de les valider. Et souvent, je suis assez énervé parce que, bon, comme Mme Tous habite à Paris, j'ai tendance à être moi-même le trou dans ce monde un peu. Où on est un peu coupé de ce temps de réalité, on va dire que ça, ce sont les peurs de la société, ça ne vaut rien, etc., il n'y aura rien, etc. Oui, il y a des raisons de l'enfer. Mais par contre, les vraies raisons de l'enfer ne sont pas forcément, correspondent pas forcément aux peurs que l'on nous désigne. Ça, c'est là que c'est difficile, je crois, d'exercer son sens de société, bien. De quoi réellement faut-il avoir peur? Est-ce que c'est des mêmes manières qu'on nous désigne? Ou est-ce que c'est des problèmes qui sont au contraire ceux que l'on essaie de nous cacher?
Oui, je vous reprends une petite question. On a dit que la peur, ça va être un autre côté.
En ce qui concerne le. Vous avez évoqué plusieurs choses. En ce qui concerne le. Vous appelez les sacrifices, enfin, il y a quand même un retournement complet dans le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a un retournement complet de la notion de sacrifice. Donc on ne peut pas mettre tout dans le même sens, dans le même sac. Par René Girard, elle a montré de manière absolument limpide que justement le christianisme régule. Cette peur retourne cette violence, et justement par travers la violence archaïque que vous évoquez, qui est de désigner des boucs émissaires, ce dont vous ce à quoi vous faites un peu bien disant, désigner des boucs émissaires, c'est-à-dire des victimes qui sont parfaitement innocentes, mais qu'on va désigner comme coupables pour le bien de la société, et qu'on va sacrifier pour le bien de la société, le christianisme fait une révolution radicale par rapport à ça, puisque justement, c'est ça la grande révolution du christianisme, c'est de retourner ce mécanisme qui consiste à désigner une victime et à la désigner coupable et à la sacrifier. C'est ça. Voilà.
Il n'a pas fini de parler.
Simplement, faut pas vous suivre quand vous dites les religions interfécites. Ben, il y a les religions interfécites, mais il y a le christianisme qui fait un retournement complet là-dessus, et ça s'appelle, d'ailleurs, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice interfécite. Donc, ça, c'est une révolution radicale. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est évidemment René Girard qui l'a démontré d'une manière, on croit, assez importante. Bon. Alors après. Moi, je ne demande pas du tout que les chrétiens fassent la loi. Mais alors, absolument pas. Je l'ai dit, et je crois que c'est pour moi une conviction très profonde, c'est fini. Définitivement fini. Mais ce qui me met en colère, c'est quand on fait comme si ça continuait, qu'on en fait parler. Alors là, oui, j'ai envie de m'énerver en disant, moi, je veux être en respecter pour ce que je crois. Je veux que je sois citoyen comme les autres, et donc je peux avoir des convictions, je peux avoir des choses à dire, je peux vouloir rendre ce service à la société, de dire un certain nombre de choses, même si ces choses-là ne font pas la loi. Donc, sur la bioéthique, moi je pense qu'on est dans une société démocratique, il peut arriver que le Parlement prenne des mesures qui sont contraires à mes convictions. Comme le citoyen, je dois tout à fait l'accepter, et je l'accepte très bien. Mais ce que je veux, c'est pouvoir participer au débat et ne pas être disqualifié a priori en me disant vous êtes quelqu'un qui, parce qu'il est croyant, n'a pas le droit à la parole, parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que les gens souffrent, en fait, il y a tout ça qui vous intéresse, vous êtes catholique, donc le catholicisme, c'est la souffrance, etc. Moi, j'ai déjà entendu ça dans les débats. Et là, je dis stop, moi, je veux pouvoir juste m'exprimer, écoutez-moi, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et je pense que la grande difficulté pour les chrétiens, c'est de se situer comme ça.
c'est-à-dire d'admettre qu'ils ne font plus la loi, et je peux le dire, il y a en ce moment à l'aube de l'Assemblée des évêques, et je peux le dire que quand la plupart d'entre eux ont fait ce constat, ils sont conscients de ça. L'Église en France, en tout cas, ils l'ont compris, dans d'autres pays c'est plus compliqué, par exemple, en Espagne c'est plus compliqué, mais l'Église a compris ça, qu'elle ne fait plus la loi. Mais ça ne rappelle pas de ça, ça ne rappelle ni qu'elle n'écoute pas sa parole. Au contraire, voilà, au contraire, la difficulté va être d'accepter après le compromis démocratique. Voilà. Si demain le gouvernement, change et que par exemple une loi est adoptée qui autorise l'euthanasie, je pense, pour ma part, mais si on n'est pas d'accord, je pourrais préférer pour cela, d'ailleurs on a organisé en ce sens un débat sur le christianisme avec deux points de vue contradictoires, je pense que pour ma part, ce sera un faux progrès, un faux progrès, et ce sera une série de révélations. Je pense que c'est mon devoir de chrétien de le dire si c'est ma conviction sincère. Après, comme citoyen, je respecte la loi, je ne vais pas les mentionner devant le bain de compromis. Donc, je pense que là, on peut très bien exprimer une conviction, on a la chance de vivre dans une société démocratique, et très bien qu'on est tous les deux comme les autres, ils n'ont pas la sensation d'être trompés. Et alors, de grâce, qu'on ne vient pas nous dire que, parce qu'il y a une opposition, on n'a pas le droit à la parole. Excusez-moi, mais alors ça, je suis radicalement en désaccord. Parce que je peux vous dire, parce qu'il y a eu un instant de Paul, alors le christianisme ne fait pas. Comme ça, le coup de Paul, c'est complètement à l'instant. Le christianisme fait partie, il y a eu un instant de Paul, c'est un instant de Tour, enfin voilà, les grands saints, l'université des arts, donc le christianisme est parti. Et ça, c'est une attitude que je considère comme une attitude terriblement réductrice. Pour une raison caricaturale. Enfin, voilà. Donc, on est imprisonnier de notre histoire. On est imprisonnier de notre histoire. Il semble que là aussi, le christianisme renverse complètement les choses. Et pour le coup, je rejoins la conversation précédente, c'est notre responsabilité individuelle, chacun d'entre nous, de ne pas être prisonnier de cette histoire, d'être davantage en cohérence avec nos valeurs, et pas en contradiction avec nos valeurs. Ça, il y a un sacré droit, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et donc, moi, je ne veux pas, personnellement, je n'accepte pas d'être disqualifié au nom d'une situation du passé que je connais, donc, que je regrette, que je déplore, évidemment, que je condamne, mais qui n'est pas du tout du christianisme, vraiment. Comment ? Oui. Oui. Mais pourquoi vous voulez réduire je ne conteste pas ce sont des chrétiens, mais vous savez, je n'aime encore plus loin que vous. Je considère qu'un catholique intégriste, je n'ai pas de raison de considérer qu'il n'est pas catholique, plus qu'il est moins catholique que moi. Moi, je veux sortir d'ailleurs de ces logiques de la communication. Donc, je dois admettre qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout la même conception que moi du christianisme, peut-être la même conception que vous. Voilà, je l'admets, je ne m'empêche pas de dormir, je l'admets. Mais d'un côté, vous parlez des chrétiens américains. Ben, ne réduisez pas les chrétiens américains à ça. Je vous donne un exemple, parce qu'on a traité dans le journal de la vie à l'époque, côté de l'affaire VSK, on a découvert qu'il y avait des gens qui étaient détenus dans des conditions d'ailleurs assez inhumaines dans les prisons américaines, notamment à prison de Richard Feynman. Bon. Qui s'occupe de ces détenus? Un prêtre franciscain français. Voilà. Donc ne réduisez pas le christianisme à ses caricatures, parce que du coup on n'avance pas. Donc voilà, oui, bien sûr. Voilà. Mais s'il faut réduire le christianisme à sa caricature, prenons chacun d'entre nous, parce que je pense que chacun d'entre nous, ceux qui sont chrétiens, est le premier à renier le christianisme par ce comportement. Ça s'appelle le péché.
Bon, est-ce qu'il y a encore je me présente la dernière des trois autres soirées, la démarche une question encore, oui. C'est la dernière.
Je vous remercie.
Je vois pas si ma vidéo est complète.
Il faut parler
donc, là. Je vois pas si ma vidéo est la population. Moi, je me dis dans ma tête souvent que la peur qu'on a en France est peut-être due au vieillissement de notre population. Est-ce que c'est. Parce que. On parlait tout à l'heure du Vietnam, on a un tiers de la population des jeunes qui n'a pas connu la guerre, qui du coup sont terroristes. Nous, c'est le sentiment d'une jeunesse qui n'a pas d'illusion parce que leurs aînés n'ont plus d'illusion. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Voilà.
Ça mériterait d'être réfléchi, mais je ne sais pas répondre, donc je vous dis honnêtement, je ne sais pas répondre, c'est une question qui est probablement très délicate. Moi, je, franchement, je ne sais pas répondre, parce qu'ici, il y a une question de vieillissement, parce que peut-être qu'on peut être beaucoup plus, on peut être très vieux, mais on est à des ailes, voilà, mais je trouve qu'on est dans une société qui est une société fatiguée, en revanche. C'est là que je vous rejoins. Je ne sais pas si c'est lié à notre la pyramide des âges. Je pense qu'on est dans une société fatiguée. Et elle est fatiguée d'elle-même. Elle nous met dans une société qui ne s'aime plus. Voilà. On n'aime plus ce que nous sommes. Parce qu'on s'est renié, parce qu'on a fait des choses mal, etc. On est dans cette société qui est. C'est ça la société psychiquement fatiguée dont parlent les médiateurs aussi. Enfin, c'est pas que, là, c'est moi qui fais du commentaire, c'est pas ce que dit Jésus, mais je crois qu'on est dans une société qui est fatiguée d'elle-même. Voilà. Et il y a des peuples, il faut bien le reconnaître, c'est ça du Vietnam, qui ne sont pas fatigués d'eux-mêmes. Et pourtant, ils sortent de drames, d'ailleurs, tous plus épouvantables les uns des autres. Et moi, j'aimerais. Moi, je plaide souvent pour un christianisme qui se réveille. Arrêtons de défendre des monuments en péril, les sont tombés, qui sont en train de tomber. Juste, réveillons-nous. Voilà. Parce que c'est ça qui nous est demandé, au fond, c'est ça le sujet, en réalité, c'est d'arriver à nous réveiller. Voilà. Et nous réveiller, c'est-à-dire de ne pas nous laisser donc, complètement. Paralysé par cette fatigue de nous-mêmes. C'est ce que j'aurais tendance à vous
répondre, si je peux, parce que je sais un peu vous dire, il faudrait que ça mérite une enquête. Voilà,
je crois que c'est un grand merci à l'Empire Denis pour cette première soirée. Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir. Donc je vous invite mercredi, donc après-demain, mercredi 9 novembre à 20h30, alors que nous ne sera pas ici à la Cour du Travail Social des Nouveautés, il y aura une pièce de théâtre. Alors on va changer pas mal de registres, on sera plutôt dans le registre intimiste et de l'intériorité et personnel. Donc il y aura une pièce de théâtre qui cause de 14h48. C'est une pièce de théâtre qui est bien connue de Saracène, qui sera interprétée par Alistair Bézervi. Cette pièce, c'est une pièce qui dure 3 quarts d'heure. C'est un chant douloureux qui traite du mal de vivre. À défaut de vivre, on fait le choix de mourir pour laisser une empreinte. On a parlé tout à l'heure de suicide et des questions de suicide dans cette pièce. Donc c'est une pièce difficile, très dure, et qui amènera certainement beaucoup de réactions lors du débat. Donc c'est après-demain, le 9 novembre. Suivra après la pièce une intervention de Alain Moraïba, qui est un psychologue et psychanalyste, qui vient pour la troisième fois. C'est vraiment des thèmes de vraiment intéressants. Ça sera du thème autant de soi et logique de l'autre. Il fera le lien, il présentera la pièce de théâtre, il fera le lien évidemment avec Tricode 1448. Donc c'est une correction originale. Si vous avez entendu Alain Moraïba connaître l'originalité, la finesse, la pertinence de ses interventions. Dans 10 jours, le mardi 15 novembre, ici à la bourse, c'est Bernard Rocher, qui vous connaît pas aussi, architecte en fait du monument historique, qui projettera des images de la peinture, de la sculpture, de l'art en général, qui nous montrera comment les époques et les cultures ont traité leur rapport à la peur. Là, c'est certainement un miroir de ce qui existe des gens en période. Donc, ça sera dans 10 jours, le 15 novembre.
dans quelques jours, le mardi 22 novembre, toujours ici à la Cour du Travail, c'est Pierre de Verdier, un théologien, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui vient aussi, je crois, pour la troisième fois. Il nous proposera de demander dans la vie, en montrant comment, dans la vie, on passe de la peur à la crainte. Alors, la crainte dans la vie ne va pas se passer de la même sorte que le mobilement actuellement. On fait un peu des efforts plus tard en venant à cette soirée, donc, dans 15 jours. Voilà, encore une fois, merci à Jean-Pierre Denis. Je termine en disant que vous trouverez en sortant une librairie, il manque un livre là très important, qui s'intitule Pourquoi le christianisme fait scandale, et qu'on va faire Jean-Pierre Denis, il devait arriver, mais il n'est pas pour arriver, il sera là lors de votre soirée. Donc je termine de vous dire que vous trouverez des personnes qui vous tendront une cruche ou un panier, je ne sais pas. Bon, j'ai soiré, vous avez bien fait pour un coup, donc je vous remercie d'avance pour votre généreuse contribution. Voilà, merci.
Je vais vous donner des questions de l'histoire de 2020.